Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on va parler du rôle du fitness sur le développement des jeunes et aussi un petit peu des influenceurs. Bon, un thème, vous allez me dire, un peu bateau, mais moi j'ai pas mal de choses à dire. Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de contenu qui sortait sur le sujet, notamment même un reportage qui est sorti sur une chaîne suisse, qui m'a un peu interpellé, et où j'ai vu d'ailleurs qu'on évitait certaines questions, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais en tout cas ça m'intéressait de débattre un petit peu, de moto infliger un débat, on va dire, sur le sujet, parce que je trouve ça intéressant de voir comment, la tournure des choses. Bon, on est en plein cœur là, si vous m'écoutez à la sortie du podcast. Donc pour rappel, les nouveaux auditeurs, je ne sais pas s'il y a des nouveaux aujourd'hui, mais on discute ensemble tous les mardis à 8h en podcast comme ça, donc sans faute, on essaye d'être là présent on se donne rendez-vous à 8h le mardi, tous les mardis heure française, voilà. Avant de démarrer le podcast, sachez que ce dimanche est sorti à 10h sur mon site pour les VIP le troisième volet du Hard Reset Nutrition qui s'est basé sur les meilleurs régimes. Donc je passe au crible, je crois c'est 34 ou 37 régimes depuis le début du siècle dernier, de manière à justement voir un petit peu quels sont les réels modes, les choses qui se répètent, quelles sont les choses qui ont été lancées puis abandonnées, et quels sont les régimes prometteurs, quels sont ceux qu'on peut encore faire aujourd'hui. Et bien sûr, il y a des conclusions, il y a des types d'alimentation à suivre en fonction de chacun et tout ça. Tout ça, c'est alors c'est comme un podcast, vous l'écoutez en faisant vos activités du quotidien. Et ça vous permettra un petit peu de continuer à nettoyer les fausses connaissances ou les croyances qu'on peut avoir dans le monde de la nutrition par rapport au sport, notamment fitness et santé. Moi, j'aime bien mettre les deux ensemble. En tout cas, je trouve que c'est comme ça qu'on devrait tous faire. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais là, on va parler d'énormément de régimes. Donc, si vous avez des interrogations sur certains régimes, il est fort probable que ce soit un des thèmes de cet épisode-là. Donc, l'épisode que je vous propose en description, là, vous allez voir, vous cliquez, soit par mail, peut-être que vous l'avez reçu. Sinon, dans les notes de l'émission, vous y accéderez. Donc, ça s'appelle « Les meilleurs régimes ». Vous avez un lien, je l'ai mis en gras, vous cliquez et vous y accédez en audio. Voilà. Bon, alors, pour démarrer cet épisode... les ados, les influenceurs et la forme physique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, moi, je regardais un reportage, là, que peut-être que vous avez dû voir aussi, donc sur une chaîne suisse, RTS, je crois que ça s'appelle, où on voyait des jeunes ados qui faisaient du sport, et puis il y avait des psys qui parlaient de ça et tout ça. Et l'image était plutôt négative dans le sens où attention danger, attention l'image de soi, attention les problèmes futurs à venir et tout ça. Mais on définit pas réellement quel est le rôle de l'influenceur là-dessus. Alors vous savez que moi, par rapport aux influenceurs, chose que je ne suis pas, puisque l'influenceur influence certainement plus au niveau marketing, c'est-à-dire de produits, il va vous recommander des protéines, il va vous recommander des t-shirts, il va vous recommander telle et telle chose. Moi, je trouve qu'il y a il y a un biais à partir du moment où la personne est rémunérée par une marque et tout ça. Effectivement, quand sa source de revenus pour payer ce qu'elle met dans son frigo et pour payer le toit qu'elle a au-dessus de la tête et compagnie, donc ses revenus sont fournis par des marques, il y a une forme de dépendance qui s'installe et cette dépendance, je ne l'aime pas. Voilà, moi je préfère les gens qui sont indépendants, qui vivent de leur contenu à la limite, de leur propre contenu, mais quand on est trop dépendant des marques et tout ça... on tombe un peu dans le sponsoring et on n'était pas naïf pour les athlètes. On savait très bien que les athlètes, un athlète s'est construit avec rien Et une fois qu'elle a, elle est devenue quelqu'un, on lui a fait confiance. Les marques lui ont fait confiance. Donc, n'oubliez jamais ça. La première chose, c'est que une personne qui aujourd'hui est reconnue, c'est souvent construite, que ça soit physiquement ou peu importe, avec les outils qu'elle avait avant. Donc, c'est-à-dire des outils sans sponsoring, sans, enfin, personne faisait attention à elle. Donc, elle est sortie du lot en utilisant certainement les outils que vous avez aussi devant vous. Donc, elle n'avait pas une chance inouïe ou un sponsoring dès le début. Personne ne lui a fait confiance. On lui fait confiance aujourd'hui parce qu'elle a une audience. Mais avant, elle n'avait pas d'audience. Donc, personne ne lui a fait confiance. Bon, bref. Donc, moi, j'ai juste ce petit parallèle. Moi, j'aime pas trop les influenceurs pour ça. Donc, quand je dis j'aime pas, c'est pas à titre personnel. Je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent. Mais je veux dire, là où je trouve que c'est pas terrible, c'est sur cette pente de recommandations de produits. Quand je dis produits, c'est de produits d'achat, hein, des choses à acheter et tout ça. J'aime pas trop. Après, en termes d'image, c'est-à-dire qu'un influenceur fitness pour un ado, par exemple, ben il représente l'idéal en fait. Donc, c'est-à-dire que l'idéal n'est pas forcément ce que l'on veut obtenir absolument. L'idéal étant un guide, un peu un GPS, c'est-à-dire une quête, quelque chose qu'on admire et on veut tendre à aller dans ce sens-là, physiquement, je parle. Beaucoup de personnes vont dire que ces photos des influenceurs sont retouchées, sont photoshopées, etc. Mais peut-être que parfois ça existe, effectivement, il y en a peut-être qui retouchent et tout, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui retouchent pas, hein. Ce sont vraiment des gens qui ont des bons physiques et tout. Mais bon, le Photoshop existe, donc il faut quand même en tenir compte. Vous savez, quand des gens peignaient des portraits d'athlètes dans le passé, que ce soit sur des toiles ou sur des vases, des poteries et tout ça, ou même des sculptures, évidemment, on forçait le trait pour rendre l'esthétisme plus prononcé. Donc il y avait cet idéal déjà, on pouvait savoir qu'on ne l'obtiendrait jamais, mais on pouvait quand même faire en sorte de tendre vers cet idéal-là, d'aller, de s'orienter vers, en fait d'avoir un GPS, d'être guidé, plutôt que d'être laissé au choix du hasard et de la vie, de là où elle va nous emmener, etc. Donc moi je vois surtout l'influenceur pour l'adolescent comme une représentation d'un idéal, un peu comme une statue grecque dans le passé, ou une poterie, enfin voilà quoi. Vraiment cet idéal, ou le super-héros dans les BD des enfants des années 50, 60, 70, vous savez, les comics et compagnie quoi. Donc ça veut pas dire qu'on veut être Superman, ça veut dire qu'on aimerait s'en rapprocher, ça veut pas dire qu'on veut être l'influenceur le plus musclé de la planète, mais on a envie de se rapprocher de ce mode de vie, de cet esthétisme, etc. Donc la quête de l'esthétisme, c'est pour moi, et c'est pas forcément une chose négative de vouloir faire comme ça, parce que beaucoup de personnes n'ont pas de but, n'ont pas d'objectif et savent pas trop vers quoi se tourner, et quand ils ont le choix entre se créer un idéal d'un camé, un idéal d'un voyou, un idéal de je sais pas trop quoi qui peut être les amener dans des situations compliquées, mieux vaut avoir un idéal d'une personne athlétique sportive qui conduira possiblement, probablement à une hygiène de vie plutôt stable et cohérente quoi. Deuxième point, j'ai mis les jeunes découvrent le monde physique à une période où leur corps est leur ennemi. N'oublions pas que l'adolescence, que pour les garçons et pour les filles, c'est un moment où le corps change. Le corps change et le corps est perçu comme un petit con qui fait un peu ce qu'il veut. Donc il y a de l'acné, il y a un sein qui pousse plus vite que l'autre. Donc le corps est plutôt perçu comme un ennemi qu'on cherche à cacher avec des couleurs noires, avec des tailles larges, ou alors de s'affirmer par des artifices pour détourner l'attention, avec des piercings, avec des tatouages, avec des couleurs de cheveux, avec du maquillage ou avec des comportements agressifs et compagnie. Donc on va chercher par tous les moyens de détourner l'attention de son corps, parce que son corps est son ennemi à cet âge-là. Et que on sait qu'on est un peu tous dans le même panier et on essaye de mettre le projecteur sur d'autres choses. Alors que faire du sport, la pratique du fitness, et d'ailleurs dans le reportage que je regardais, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils disent que le mythe, il n'y a pas de données sur l'arrêt de la croissance avec la musculation. Donc ça, c'est quelque chose qui traîne depuis des années, mais pas, c'est pas moderne, hein. Même certains philosophes, je vous en parlais, je crois, dans un précédent podcast, ils parlaient il y a très longtemps, justement, que ça pouvait stopper la croissance, etc. Donc c'est pas un dogme moderne. Par contre, c'est juste pour donner une réponse rapide là-dessus, on verra plus tard, mais c'est surtout les régimes qu'il faut faire. Il faut faire attention aux régimes. C'est les régimes en fait qui pénalisent la personne est au régime, elle va très peu se développer, surtout quand elle est en période de croissance, quoi. C'est là où il faut surtout pas qu'elle se mette au régime. Bref, donc les jeunes découvrent le monde physique à une période où leur corps est leur ennemi. Et je trouve que ça peut être une bonne pratique pour se réconcilier assez rapidement avec son corps. C'est-à-dire que de développer, de prendre conscience qu'on a un corps qui a changé, qu'on est plus fort, etc., je trouve que c'est une bonne façon de faire que de pratiquer. Alors moi je parle du fitness, mais ça peut être tout autre sport, mais surtout le fitness, parce que le fitness, on est quand même fitness musculation, on est quand même en contact direct avec l'intégralité de nos muscles, donc c'est quand même quelque chose où justement on prend conscience qu'on a des abdos, on prend conscience qu'on a des biceps, etc., etc. Et ça permet aux jeunes de peut-être de renouer le contact avec le corps qui est en train de changer, où on a l'impression qu'on n'a pas la main dessus. Effectivement, on n'a pas la main sur sa croissance, mais on peut quand même bricoler pour essayer d'avoir une espèce de prise de conscience, en tout cas, de son propre corps. Et ça peut être quelque chose de bien à une période où justement le corps peut physiquement, enfin peut psychologiquement impacter les adolescents. Voilà. Parce que évidemment, on parle toujours que du côté négatif. Oh là là, les jeunes, c'est vrai, ils deviennent anorexiques et tout. Mais on parle jamais du côté positif. C'est-à-dire que l'anorexie, les problèmes psychologiques, c'est quand même une petite portion des adolescents, mais on parle pas des effets positifs qui peuvent atteindre la majeure partie de ceux qui vont pratiquer du sport. C'est là aussi, il faut le dire, parce que ces jeunes, ils ont peut-être envie de l'entendre, et c'est important, à mon sens, de le dire, que effectivement, de prendre conscience de son corps à un âge où le corps est détesté, et d'essayer de l'améliorer par le sport, de prendre conscience que le sport, que nous-mêmes on peut agir dessus, c'est se construire des croyances pour toute la vie et des croyances solides. C'est-à-dire que nous avons un rôle dans la composition de notre corps. Ce que l'on fait de nos journées, ce que l'on fait de les contraintes qu'on impose à notre corps vont avoir des répercussions au niveau esthétique, au niveau de la santé, au niveau de la force, etc. Troisième point, ils pourront connaître la résilience plus tôt, ce que j'avais noté. Résilience, ça veut dire en gros, surmonter les échecs et de repartir, etc. Oui. Pourquoi? Parce que, comme je disais en premier point, l'idéal, la quête de l'idéal, on se rendra très vite compte que, par exemple, si vous voulez être Superman, donc l'équivalent dans le monde des influenceurs fitness, je sais pas qui c'est que ça pourrait être, mais vraiment le mec le mieux bâti que vous idolâtrez en étant ado, rapidement vous allez vous rendre compte que vous n'aurez jamais la même ligne parce que vous n'avez pas les mêmes insertions, vous n'avez pas foutu pareil, vous êtes pas aussi grand, vous êtes pas aussi petit, ça peut être le cas aussi. Enfin bon bref, et vous allez voir assez rapidement que chacun a son propre corps et qu'on peut faire, on peut l'amener au top du top en fonction de son corps. Donc c'est-à-dire que n'importe quel corps peut s'améliorer. Ça, c'est très important de le savoir. C'est-à-dire que peu importe le physique que vous avez aujourd'hui, vous pouvez toujours l'améliorer. Ça veut pas dire que vous allez ressembler à l'influenceur que vous suivez, mais par contre, vous allez l'améliorer par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est toujours quelque chose de bien. Et cette résilience, c'est que je pense que très tôt, les gens vont se rendre compte qu'il n'y a pas de magie. C'est-à-dire que d'accepter... Vous savez, dans le précédent podcast, je parlais justement de ces... Beaucoup de personnes pensent qu'il y a une petite pilule magique qui existe, mais qui est secrètement connue que d'une petite portion des gens, et que s'ils accèdent à cette pilule, eux aussi, facilement, ils pourront obtenir ce qu'ils veulent. Je pense que les gens qui se mettent assez rapidement au sport comprennent et acceptent très vite qu'il y a des efforts à fournir et que on peut pas obtenir les choses très facilement et aussi simplement qu'on l'entendrait dans des discours un peu trop marketing. Donc ils pourront connaître la résilience plus tôt, et ça je trouve que c'est quelque chose de bon, parce que de la connaître à 20 ans, ça me semble mieux que de la connaître à 40, c'est-à-dire d'avoir vécu les 40 premières années de sa vie dans un espèce de déni de réalité, en pensant que tout était possible facilement. Voilà. Donc je trouve que ça met quand même une forme de responsabilité, une forme de sagesse assez tôt dans la vie par rapport à ça. Ouais, moi en tout cas, je trouve ça bien. Quatrième point, un chemin vers l'âge adulte. Oui, c'est vrai que les adolescents On sait que ce qui dicte l'adolescence, en tout cas, c'est les amis et aussi les relations, la séduction. Et une des quêtes de l'adolescent, notamment garçon, c'est de vouloir grandir le plus vite possible, parce qu'il sait que il sera plus attirant, il voit bien les copines de classe et tout qui sont attirées par les garçons un petit peu plus vieux, un petit peu plus matures, un petit peu plus hommes qu'adolescents. Et c'est vrai que le sport, c'est un chemin vers l'âge adulte au niveau physique, c'est-à-dire que un corps plus athlétique, c'est se sortir du corps d'enfant. Et ce corps d'enfant qu'on a envie de fuir pour ressembler à un adulte. Et donc c'est vrai que c'est un chemin vers l'âge adulte de se construire son corps, de se construire un corps plus solide, etc. Pour les femmes, ça sera peut-être plus féminin ou plus adulte également, hein, parce que de sortir de ce corps mi-ado, mi-enfant, et de plus se tourner vers un corps, on va dire, fin d'ado et jeune adulte, quoi. Donc c'est un passage vers l'âge adulte qui me semble être bon. En tout cas, à partir du moment où la personne en est convaincue, ça la soulage un petit peu psychologiquement. Cinquième point que j'avais noté. Les ados sont biberonnés à la prudence actuellement, mais la prise de risque est un rite de passage depuis longtemps. C'est ce que j'ai noté. Pourquoi ? Parce que on le voit de plus en plus. Alors, c'est pour plusieurs raisons, je pense, et je les ai pas toutes, hein, parce que j'ai pas étudié le sujet, c'est pas mon travail, je suis pas pédopsychiatre ou je sais pas quoi, mais c'est vrai que les enfants, les ados surtout, quand je dis biberonner à la prudence, c'est pas les parents sont plus présents. Il y a une présence. On le voit. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui me l'ont confirmé. Ils me disent, on est aujourd'hui tout le temps sur le dos de nos enfants, tout le temps. Ils disent nous ce qu'on faisait à leur âge, enfin ce que nous on faisait à leur âge. J'ai pas envie qu'ils le fassent parce que j'ai pas confiance, quoi. Donc ils sont biberonnés à la prudence, c'est-à-dire que attention à ci, attention à ça. Et de plus, par le smartphone, par les réseaux et tout, ils sont plus souvent en mode sédentaire à la maison. Donc ils sont sous surveillance. Mais il faut pas oublier que la prise de risque est un rite de passage pour beaucoup de personnes depuis longtemps. C'est-à-dire que dans certaines tribus, c'était la première fois qu'ils allaient à la chasse, d'autres la première fois qu'ils allaient combattre, etc. Eh ben, on ne pourra jamais dire que le sport est sans risque. Le sport comporte une part de risque. Et est-ce que ce rite de passage, il n'est pas nécessaire pour justement grandir ? Et est-ce qu'il peut pas se traduire par faire partie d'un club et développer des charges lourdes ou se mettre à la boxe ou se lancer dans une activité où on va se comparer aux autres, de voir de quoi on est capable, de pas juste être dans la comparaison et dans la réassurance de la maman et de la sécurité du papa dans le foyer. Non, à un moment donné, aller à l'extérieur et la musculation de manière symbolique. Quand vous êtes sous une barre lourde, il y a pas maman ou papa pour vous aider à la porter quand c'est trop lourd. Vous êtes dessous, il faut la pousser. Et moi, je trouve que ça, en ça, il y a une forme d'éducation qui est bonne, parce que psychologiquement, ça joue de rentrer à la maison, se dire je vais réussir à développer cette charge-là. Alors, ce sera peut-être pas des centaines de kilos, mais au début de porter un petit peu plus lourd, il y a une forme de confiance qui s'installe dans un monde où on est ultra prudent. Cette prise de risque, elle est. En fait, elle titille, elle est là, elle est présente, on en a besoin, on le recherche, ça, on a besoin de se mettre un peu en danger. C'est comme ça. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on veut risque zéro. Mais le risque zéro, je ne pense pas qu'il soit bon pour l'évolution, enfin, en tout cas, l'évolution vers l'âge adulte, quoi. C'est pour ça les rites de passage aujourd'hui, en tout cas dans les pays, on va dire riches et compagnie. Dites-moi, c'est quoi les rites de passage ? Il y en a plus, quoi. Enfin, je veux dire, personne vous emmène à la chasse. Ça c'est rare, quoi. Et ça y est, maintenant t'es un homme, mon fils. Non. Et c'est vrai que de se l'imposer par du risque, on va dire. Tolérable. Le sport, c'est un risque tolérable. On parle pas d'aller à la guerre. On parle d'aller lever des haltères ou d'aller sur un ring ou d'aller, je sais pas, faire un, peu importe le sport. Et moi, je pense que peut-être que c'est Le mal-être que peuvent ressentir certains jeunes qui n'arrivent pas à sortir de l'âge trop jeune, c'est aussi qu'ils n'arrivent pas à se trouver leur propre rite de passage, quoi, pour passer à l'étape suivante, quoi. Sixième point, je marquais, ils veulent parfois s'arracher de la fragilité. Et c'est vrai qu'ils se sentent fragiles, ils sentent que leur corps est fragile, ils sentent que leur une forme d'insécurité, ils sentent qu'ils sont pas, même s'ils essayent d'en donner l'impression dans la cour d'école, dans la cour de récré, ou même quand ils sortent avec leurs amis, ils sentent qu'ils sont fragiles par rapport au monde extérieur. Et le sport fait baisser cette fragilité, rend solide. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Une personne qui devient plus forte, une personne qui devient plus endurante, une personne qui devient plus habile, qui a plus d'équilibre, qui a plus de maîtrise d'un geste, etc. C'est une personne qui est moins fragile. Une personne qui fait du sport, c'est une personne qui a une meilleure immunité, donc une personne qui est moins fragile au niveau de sa santé. Donc, il y a des gens qui font du sport et qui ont cette quête du sport pour s'arracher de la fragilité. Et d'ailleurs, dans le reportage, il y a un jeune à un moment qui disait ça, c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé, c'est assez moderne qu'un ado dise que le sport soit bon pour la santé. Normalement, c'est une notion qu'on dit, un avantage du sport que l'on dit quand on arrive à l'âge adulte, voire quand on est bien installé même dans l'âge adulte. La santé intéresse peu quand on est ado. Et là, aujourd'hui, on voit que la santé compte en étant ado. Ça veut bien dire que le biberonné à la prudence, ce que je disais en point numéro 5, c'est quelque chose qui est ancré, qui est tamponné dans leur connaissance, dans leur système de croyance à ces ados-là. Donc c'est aussi un moyen d'échapper à la fragilité, de se rendre plus solide et de se rendre aussi plus indépendant par rapport aux choses qui peuvent arriver, parce qu'une personne qui se sent moins fragile se sentira plus apte d'encaisser les choses de la vie. Donc logiquement, quand on est ado, les seules choses de la vie qu'on a affrontées, c'est des disputes entre groupes, ou alors des séparations, ou alors des mauvaises notes, ou j'en sais rien, ou des études, ou un permis de conduire raté, j'en sais rien, mais des choses comme ça, c'est pas encore des grosses difficultés de la vie, puisqu'il y a encore pour toutes les choses, on va dire, pour les problèmes matériels, de toit sur la tête et puis alimentaires, on n'a pas trop besoin de s'en préoccuper, étant donné que logiquement on est encore chez ses parents à cette période-là, quoi. Mais bon, ils veulent s'arracher à cette fragilité, il faut pas les en empêcher, il faut justement les encourager à le faire. À mon sens, je trouve ça bien qu'aujourd'hui il y en ait encore qui aient envie de faire ça, dans un monde où justement on les voit de plus en plus complètement absorbés par des écrans et compagnie. Ça leur permet quand même ils le sentent que tout ce monde virtuel est psychique, plutôt psychique, où ils pensent, ils réfléchissent, ils ont ça tourbillonne dans leur tête, etc. Ils ont parfois du stress, etc., du mal-être. De remettre une dimension physique dans leur quotidien, de l'inclure, ça leur permet justement peut-être de sentir mieux, de sentir plus vivant, plus complet. Et de toute façon, même dans toute la philosophie, ils en parlent, hein, que le sport est le tampon du psychisme et vice versa. Donc, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'avoir un équilibre entre les deux pour que la vie soit plus ou moins équilibrée. Et je sais plus si c'est Emerson ou Henri David Thoreau qui disait que pour consommer, il faut produire, etc. Et pour bien consommer, il faut bien produire. C'est-à-dire que quelqu'un qui faudrait consommer sans produire se sentirait jamais bien. Donc il y a besoin de donner pour recevoir, entre guillemets. Et là, c'est un petit peu pareil. De rester toujours dans un déséquilibre où on reçoit beaucoup d'informations comme ça au niveau psychique, où on traite toujours sur le mode de la pensée finalement, mais de jamais exprimer ses capacités physiques et jamais faire fonctionner son corps. On sent bien qu'il y a un déséquilibre. Et je pense que ça les titille, les ados, et que quand ils trouve le chemin d'une salle de sport ou d'une pratique sportive, ils sentent cette chose qui leur manquait se met à plus leur manquer, parce que justement ils l'expriment et ils se sentent mieux, quoi. Et après, le septième point qui est ultra important, c'est suivre une mode. Aujourd'hui, il y a quand même une mode un petit peu du fitness, même si qu'on le veuille ou non, d'avoir un corps en forme. Et adolescence, c'est à ce moment-là que la mode est la plus la plus puissante, d'avoir les mêmes baskets que les copains, d'avoir le même sweatshirt, d'avoir, je sais pas, le même les mêmes phrases, les mêmes mots, les tout ça, d'appartenir au bon groupe, d'écouter la bonne musique et de suivre une mode, ça peut être fort. Donc si le fitness est une mode et qu'on les empêche de le faire, c'est comme empêcher son ado d'avoir les bonnes baskets ou d'avoir le bon sweatshirt. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire tant mieux, ça lui apprend la vie plus vite, mais là on parle pas de quelque chose de consommation, on parle d'une pratique physique qui justement est qui va de créer un ado qui se crée avec des notions de sport, de bien-être physique, de compréhension de justement de la fragilité et de la force et tout ça, c'est quand même répondre à un futur probablement avec moins d'obésité pour cet individu. Et on sait que l'obésité, aujourd'hui, elle est bien ancrée. Et j'ai l'impression qu'on abandonne un peu ceux qui sont obèses aujourd'hui parce qu'on se dit c'est peine perdue, on pourra pas les raisonner. Mais pour les nouvelles générations, peut-être que c'est aussi en rééduquant les gens sur le physique qu'on sauvera peut-être les prochaines générations des épidémies d'obésité. Donc c'est pour ça, on est très dur. Et c'est ça que je reprochais au reportage, c'est d'avoir assez peu parlé des effets positifs du fitness sur l'épidémie d'obésité. C'est une mode dont plusieurs personnes en font, donc potentiellement c'est moins d'ados qui deviendront obèses. Et on n'en parle pas de ce bienfait-là. On essaye toujours de trouver les dérives psychologiques, c'est pas bien, ça va les tordre, ils vont avoir une mauvaise image du monde, mais quel monde en fait ? Est-ce que le monde dans lequel ils pensent aujourd'hui, et là, c'est le bon ? On voit bien où ça conduit. Est-ce qu'il y a moins de problèmes psychologiques et psychiatriques aujourd'hui qu'avant? Je crois pas. Est-ce qu'il y a moins de personnes en mauvaise santé et obèses qu'avant? Je crois pas non plus. Donc, est-ce que c'est mal de les encourager à pratiquer un sport et à essayer de prendre conscience qu'ils ont un corps et qu'ils peuvent s'en servir, de le transformer, de le rendre meilleur? Moi, je pense que c'est bien de les encourager à le faire. C'est pas mauvais. Enfin, en tout cas, il faut pas leur dire que c'est pas bon. Mais peut-être que c'est une stratégie inversée, puisque les adolescents n'écoutent pas les adultes. Donc, leur dire que c'est pas bien, ils se mettent à le faire. Donc, finalement, ça peut être une bonne chose de leur dire que attention, danger. Mais bon, le risque étant quelque chose qui, voilà, évidemment, le risque, on pourra jamais le supprimer. Donc, on ne peut pas recommander aux jeunes d'aller se mettre en danger, mais on peut fermer les yeux. Parce que de toute façon, qu'est-ce que fait un ado quand il passe la porte pour rejoindre ses potes ? Très régulièrement, il va se mettre en danger. Il va aller seul en ville, là où avant vous étiez avec lui. Et donc du coup, c'est pour lui une mise en danger. Il se met au monde réel, il se met dans le monde des adultes. Alors au début en groupe, puis après il ira seul. Mais c'est pareil avec le sport. Il se met à performer, en tout cas à essayer de performer dans une discipline où il n'aura pas de filet de sécurité. Il n'aura pas le filet de sécurité des parents derrière qui, c'est trop dur, bah attends, je prends le relais. Non, ça, il sera livré à lui-même. Et enfin bon. Après, moi, je vous dis ça parce que c'est comme ça que je me suis développé avec le sport. Hein, et je pense que beaucoup qui m'écoutent en ce moment se sont aussi développés comme ça. Quand ils se sont mis au sport, ils ont pris conscience de certaines choses par rapport à leur corps et compagnie. Et il voit bien qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup plus d'effets positifs que négatifs. Alors, bien sûr, on a tous eu des petites blessures, des petites tendinites et tout. Donc, si c'est ça le risque à payer, et si j'avais pas fait de sport pendant toutes ces années, est-ce qu'il me serait pas arrivé quelque chose d'autre? Qui peut me donner la réponse? Personne. Donc, des risques et des choses, des pépins, il nous en arrivera, enfin, tous, et assez jeunes aussi. Et peut-être que ceux du sport sont peut-être moins graves que d'autres. Est-ce que si ça peut leur permettre de pas basculer dans des comportements, on va dire, d'addiction et compagnie, c'est quand même une bonne victoire, je trouve. Enfin bon, après, chacun y verra ce qu'il veut, mais c'est vrai que aujourd'hui, on parle beaucoup des dérives pour les ados, des influenceurs et du fitness, de tous ces trucs-là. On a tendance à trop parler du négatif, alors que je trouve qu'il y a toute une sphère très positive et personne n'en parle. Parce que je sais pas pourquoi, mais justement, quand on parle de rite de passage, pour les gens, ça paraît archaïque, mais je pense pas que au niveau cérébral, donc au niveau de notre fonctionnement, de notre évolution, on n'en ait pas besoin de ce genre de choses. Les claques, on les prendra tôt ou tard, hein. Donc mieux vaut les prendre tôt, comme ça au moins tard on n'est plus peinard. Mais c'est toutes ces choses-là, en fait, il y a plus vraiment de mots aujourd'hui pour expliquer ce genre de choses. Et la pratique du sport qui induit une confrontation à l'autre, puisqu'il y a toujours l'idéal qu'on veut obtenir, l'idéal qui fait les choses que l'on ne fait pas aujourd'hui. Donc c'est une confrontation. On se confronte à quelqu'un, même virtuellement, hein, par la pensée ou psychologiquement, on se confronte à un idéal, et cette confrontation mène à aussi des échecs. Hein. On se rend compte qu'on n'y arrive pas forcément, qu'il faut forcer, qu'il faut travailler dur pour essayer d'obtenir ne serait-ce qu'un quart des résultats qu'il peut avoir, cet idéal. Et c'est une confrontation, mais ça fait grandir. Ça fait grandir. C'est mieux que de rester chez soi à croire que, de toute façon, quand on le décidera, on prendra la bonne pilule et tout ira bien, c'est facile. De toute façon, ces gens-là finissent... Ceux qui pensent par la pilule finissent par, tôt ou tard, avoir une réalité qui s'impose à eux. Et c'est malheureux, quoi. Enfin, je veux dire, c'est les mêmes qui vont vous dire « Mais toi, tu te fais jamais plaisir. Mais toi, tu prends des protéines, donc c'est des produits dopants. Donc, c'est pour ça que t'es comme ça. Donc, si tu prenais pas, tu serais nul. » C'est ce genre de discours. Donc, et c'est des gens qui ont beaucoup de ressentiments, beaucoup de négatifs. Mais ils le savent au fond d'eux qu'il y a une forme de miroir de leur échec qui se reflète. Et malheureusement, ça sert à rien, ces personnes-là, d'essayer de les raisonner ou d'être méchante avec elles, de leur dire, mais regarde dans quel pétrin t'es, toi, depuis des années. Ça sert à rien parce que c'est déjà un mal-être. J'en parlais avec un ami il y a pas longtemps. C'est souvent les personnes qui sont assez peu confiantes, qui n'ont pas un physique très avantageux ou qui se jugent avoir un physique pas avantageux, qui vont être très vite agressifs dans les discussions quand ils sont en face de sportifs ou de personnes en forme. En fait, par défaut, ils vont d'abord attaquer parce qu'ils savent qu'ils vont possiblement être attaqués, alors que c'est jamais le cas. C'est un petit peu comme le boxeur dans la rue, c'est jamais celui-là qui cherche la merde. Celui-là, il est plutôt apaisé et tranquille. C'est celui qui se sent toujours en insécurité, qui va regarder partout, là, qui va être un petit peu trop à crier et tout. Mais celui qui est bien sur ses appuis, il s'en fout un petit peu, quoi. Il est plutôt détendu. C'est un petit peu la même chose dans la vraie vie. Celui qui a réussi à avoir un bon niveau de force, un bon physique et qui arrive à bien maintenir sa santé, celui-là, il est plutôt peinard, il s'en branle, en fait, il fait la morale à personne. Mais ce sont les autres, il se fait attaquer par les autres, par contre. Il se fait attaquer par anticipation par les autres. C'est les autres qui anticipent l'attaque parce qu'ils se disent, il va me dire que je fais mal. Donc, je l'attaque avant qu'il me dise que je fais mal. Mais pour pas devenir comme ça, donc plein de ressentiments, plein de rancœur, plein d'agressivité, le sport étant une bonne chose, est une bonne chose aussi, je trouve. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et les petits conseils que je donne avant de clôturer cet épisode qui était basé là-dessus, aux jeunes, aux ados qui pourraient m'écouter ou aux parents qui ont des ados qui m'écoutent, si l'ado est intéressé par le fitness, premier conseil, d'aller en salle de sport. De pas le faire en home gym, pour la simple et bonne raison qu'en salle de sport, il va pouvoir se comparer, il va pouvoir accéder à des coachs, ou à des pratiquants expérimentés qui vont pouvoir lui montrer les bons mouvements, etc. Mais il va se confronter à la faune des salles de sport, aux odeurs, aux mouvements, aux mots, comme on appelle ça, au lexique, on va dire, de la salle de sport, aux charges, à tout ça. Et je pense que c'est bon de commencer par une salle de sport. Pour le groupe, pour se faire un nouveau réseau, peut-être pour tout un tas de choses d'ailleurs, mais c'est très important de commencer en salle de sport, à mon sens, et au moins pour l'apprentissage, en fait. Voilà. Ensuite, deuxième point, de poser des questions aux bonnes personnes. C'est vrai que à un moment donné, l'ado peut avoir envie de poser des questions à n'importe qui. J'ai envie de faire ça, comment je fais, etc. Enfin bon, bref. Là, c'est important de poser des questions aux bonnes personnes. Alors, si vous pratiquez déjà, vous êtes déjà expérimenté et tout, c'est très bien parce que vous pourriez y répondre. Mais il faut faire attention à qui on pose les questions. Donc, si vous êtes ado, que vous m'écoutez, ne vous tournez pas forcément vers le plus musclé de la salle, mais plutôt vers la personne qui vous semble, en tout cas, à vue d'œil, celui qui se respecte le plus, qui s'entraîne correctement, qui a un bon physique, etc. Mais vous voyez, qui fait pas n'importe quoi, qui est pas excentrique, etc. ou qui essaye d'en mettre plein la vue à tout le monde. de vous tourner plutôt vers les coachs, vers les personnes raisonnables qui ont peut-être un peu d'expérience, notamment les personnes qui ont un âge un petit peu plus avancé, pas les personnes de 20 ans, mais plutôt les personnes de 30, 40, 50, voire plus, hein, qui s'entraînent. Vous aurez de très très bons conseils de des personnes les plus mûres dans ce domaine-là, parce que ce sont des personnes qui auront connu des blessures, ce sont des personnes qui auront connu des moments de vie où ça aurait été difficile et facile, donc qui ont pu s'entraîner régulièrement tout au long de leur vie et tout ça, et vous en apprendrez bien plus par ces personnes-là que par le jeune influenceur qui débute et qui a eu un bon physique rapidement. Il a assez peu de maturité sur le sujet. Évidemment, il va pouvoir vous mettre des étoiles dans les yeux par rapport à sa réussite, mais si vous voulez vraiment avancer, avoir des réponses pour votre progression, essayez quand même de vous tourner vers des personnes qui ont une certaine maturité, parce que ça vous poussera un petit peu à comprendre les choses autrement, et surtout à pas tomber dans des croyances qui pourraient vous limiter pour votre progression, quoi. Et le troisième conseil, ne pas forcer sur les régimes de sèche, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, que vous soyez parent ou ado et que vous voyez un ado faire des forts régimes de sèche, attention, danger. Voilà, c'est pas une bonne chose. Manger sainement, c'est très bien. Et la personne peut bien se recalibrer au niveau des ratios graisse-muscle et tout en mangeant très bien, mais de faire des régimes poussés de sèche pour être très sec quand on est ado, non. Donc sport plus alimentation saine, oui, mais sport plus sèche extrême, non. Sport, oui, mais le c'est pas le sport qui est problématique, c'est le régime de sèche, en fait, de se carencer, de se mettre dans le rouge à un moment où justement on est censé se construire. Voilà. Donc voilà, c'était ce que j'avais comme petit conseil à donner là-dessus, parce que je trouve que, comme d'habitude, quand les influenceurs parlent, quand les médias parlent et tout, ils ont tendance à chercher le négatif, parce qu'on est dans le negative news, hein, pas dans le positive news à chaque fois. Et moi, je suis pas convaincu que ça soit une mauvaise idée que le fitness soit devenu une mode. Au contraire, après, il faut aussi dire, ok, voilà ce qui attend. Il y a des dangers comme partout, mais est-ce que c'est pas ça aussi qui fait un petit peu l'adrénaline du quotidien, quoi, d'avoir quand même une petite notion de risque, une petite notion d'imprévu dans les choses qu'on fait, et autant essayer d'en prendre une forme de maîtrise par justement le sport et l'hygiène de vie. On va dire fitness, voilà. Donc c'était ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Je pense que vous partagerez pas tous mon point de vue, évidemment, c'est normal, hein, et encore heureux. Et si vous avez envie d'aller voir justement les meilleurs modes d'alimentation depuis le début du siècle dernier, sachez que j'ai passé au crible 37 régimes et que je vous donne le filtre de ceux qui sont bons à suivre aujourd'hui. Alors entendez, dans régime, c'est pas forcément des régimes de perte de poids, hein, c'est que régime alimentaire, ça peut être des modes alimentaires, etc. Donc on en parle aussi en audio dans une autre partie. Je vous laisse aller découvrir ça. C'est en note de cet épisode. À tout de suite et à la semaine prochaine pour les autres. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque que je... Alors, c'est un Netflix version fitness privé qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours, hein, que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, Tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmith.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.